Les études sur la parole de Dieu. La première épître à Timothée. Introduction et chapitre 1. Par John Nelson Darby. Les épîtres à Timothée et à Tite ont naturellement une portée et un caractère particulier en ce qu'elles sont adressées à des personnes députées par l'apôtre pour agir en son nom ou pour soigner des assemblées en son absence. Ces épîtres ne s'adressent pas moins directement à nous pour cela, parce que non seulement elles nous instruisent de l'état de l'assemblée et des soins pastoraux que l'apôtre lui donnait, mais que la conduite dépeinte par l'apôtre, comme celle que Timothée devait engager les fidèles à suivre, est la conduite que ces derniers doivent eux-mêmes toujours observer. Cependant, ce serait méconnaître le ministère chrétien, compris dans le sens le plus vrai et le plus excellent, que de confondre les directions données à Timothée et à Tite avec les paroles adressées directement aux fidèles. Une grande partie de l'épître qui va nous occuper n'exige pas beaucoup de développement, non parce qu'elle n'a pas d'importance, mais parce qu'elle renferme soit des directions si simples et si claires que tout éclaircissement à leur sujet est superflu, soit des exhortations pratiques qu'on ne ferait qu'obscurcir ou priver de leur force en essayant de les développer. D'un autre côté, nous y trouvons quelques principes généraux d'une grande importance sur la position de l'Assemblée en général. Dieu revêt dans ses épîtres d'une manière toute particulière le caractère de Dieu sauveur à l'égard du monde, principe d'une grande importance pour notre conduite dans le monde et nos communications avec les hommes. Nous représentons dans notre caractère religieux un Dieu d'amour. Dieu ne prenait pas ce caractère dans le judaïsme, quoiqu'il fût le même Dieu. Mais là, il se faisait connaître comme législateur. Tous devaient venir dans son temple, selon les déclarations des prophètes, et ce temple leur était ouvert. Mais lui ne prenait pas le caractère d'un Dieu sauveur pour tous. Dans Tite, nous trouvons la même expression. On comprend que dans ses communications confidentielles à ses chers enfants dans la foi et compagnons d'œuvre, l'apôtre établit clairement les grands principes sur lesquels reposait l'administration qui lui était confiée. D'abord, le fait que tous les hommes sont les objets des voies de Dieu en grâce était la base générale sur laquelle cette administration était fondée. Ensuite, le caractère de Dieu envers le monde était le caractère d'un sauveur. Comparé 2 Corinthiens 5. La loi est à sa place. Elle l'est même encore, et cet épître nous le montre. Elle convainc les hommes injustes. Mais la souveraine miséricorde est le point de départ de tout ce que l'apôtre avait à dire. Cet esprit, cette pensée devait gouverner le culte même des fidèles. Les détails suivent. Toutefois, il y avait sur la terre une assemblée de Dieu vivant, colonne et appui de la vérité, une assemblée témoin de cette vérité sur la terre. La personne de Christ et tout ce qui le regarde est le sujet de la confession de cette assemblée, le fondement de son existence et l'objet de sa foi. Cette foi, au dernier jour, sera attaquée par l'ennemi qui, sous prétexte de sainteté, s'élèvera contre le Dieu créateur et conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Les directions pour la marche de l'Assemblée composent le reste de l'Épître. La conduite qui convient à tous les chrétiens, est placée sous les yeux de Timothée, pour lui faire comprendre ce qui convient à l'Assemblée de Dieu. Nous examinerons maintenant de plus près le contenu de cet Épître. Chapitre 1. Déjà, dès le commencement, l'apôtre désigne Dieu comme Dieu sauveur. Paul est apôtre de Jésus-Christ selon le commandement de notre Dieu sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est la confiance et l'espoir de l'âme. On remarquera aussi que le souhait de l'apôtre ici est différent de celui qu'il exprime quand il s'adresse à une assemblée. Paul dit « grâce, miséricorde, paix ». Il ne dit pas « miséricorde » aux assemblées qui se maintiennent comme telles devant Dieu à la suite de la miséricorde que Dieu leur a faite et qui quelque mauvais que soit leur état, sont envisagées comme assemblées selon la nature dans laquelle elles subsistent par l'esprit, et où il ne s'agit aucunement de miséricorde, parce que cette nature même est de Dieu. La grâce et la paix sont bien ce dont elles ont à jouir de la part de Dieu. Mais quand il s'agit d'un individu, quelle que soit sa piété et sa fidélité, il est là, chair et esprit, ayant encore sa carrière, en partie du moins, à fournir, et ayant toujours besoin de miséricorde. C'est aussi ce que l'apôtre souhaite à Timothée ainsi qu'à Tite. Dans l'adresse de sa lettre à Philémon, il ajoute « et à l'assemblée qui se réunit dans ta maison ». Et ainsi son souhait n'a plus cette forme personnelle. Mais dans les épîtres à Timothée et à Tite, on trouve l'intimité de l'apôtre avec ses chers collaborateurs. Il savait combien ils avaient besoin de la miséricorde. Elle était sa ressource à lui. Ce qu'il avait expérimenté pour la consolation de sa propre âme. Le but spécial pour lequel l'apôtre avait laissé Timothée à Éphèse, lorsque lui-même il s'en était allé en Macédoine, c'était afin qu'il veillât sur la doctrine qui était enseignée. Mais Timothée, étant à Éphèse, Paul lui donne des directions pour l'ordre intérieur de l'assemblée. Pour ce qui regarde la doctrine, le mal que l'ennemi cherchait à introduire avait un double caractère. D'un côté, on s'attachait à des fables de l'imagination humaine et de l'autre, on voulait introduire la loi dans le christianisme. À l'égard des fables, le mal était simplement un mal et n'édifiait personne. L'apôtre n'en dit pas ici grand-chose. Il avertissait du mal à l'avance. Et la foi de l'assemblée d'Éphèse était assez saine pour qu'elle pût juger tout ce système de pures fables et de généalogie. L'esprit avertissait que, plus tard, ce genre d'erreur aurait de plus fâcheuses conséquences. Mais dans ce moment-là, on n'avait qu'à garantir les fidèles de ce qui ne valait rien. Timothée avait le mandat de la part de l'apôtre d'y veiller. Mais ce qui nous est confié dans le christianisme comme service est toujours, dans son but et dans son caractère, à la hauteur des principes éternels de Dieu et tient au fond de nos relations morales avec lui. Le but du mandat de Paul est l'amour procédant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, jamais de curiosité, de raisonnement ou d'imagination humaine. C'est là pour les âmes saines, dont la foi est dirigée par l'Esprit de Dieu, une marque sûre de la source divine d'un enseignement. Des questions spéculatives n'agissent pas sur la conscience et n'amènent pas dans la présence de Dieu. Quelques-uns avaient abandonné l'amour provenant d'un cœur pur et d'une foi sincère, ces grands jalons du christianisme, pour se jeter dans de vains discours. Ici aussi, nous retrouvons ces mêmes corrupteurs du christianisme qui, après avoir rejeté le Sauveur, se met d'épines le chemin de l'apôtre, savoir les judaïssants. C'est la loi qu'il voulait enseigner. L'esprit de l'homme est capable de s'occuper des devoirs légaux. Or, nous voyons ici comment, quand on est à la hauteur de la vérité de Dieu, on peut mettre toutes choses à leur place. L'imagination des hommes, selon Paul, ne produit que des fables. Mais la loi est de Dieu et peut être un instrument utile si l'on s'en sert comme on doit le faire. Elle est très utile pour condamner, pour juger le mal, pour tuer, pour montrer le jugement de Dieu contre tout mal interdit par l'Évangile. Évangile qui a révélé la gloire du Dieu bienheureux, gloire qui ne supporte aucun mal, et qui a été confiée à l'apôtre. Pour frapper ainsi la conscience, on peut bien se servir de la loi, mais elle n'édifie pas le juste, et si l'on est sous la loi, on est sous la malédiction. Se servir de la loi comme d'une épée pour la conscience, voilà ce qu'on peut faire de la loi. La grâce seule est la source de nos prédications et l'appui de nos âmes. Ces deux systèmes, la loi et la grâce, et leurs places respectives sont présentées dans les versets 5 à 17, qui forment une espèce de parenthèse, l'apôtre reprenant son discours à Timothée au verset 18. Le juste emploi de la loi est expliqué dans les versets 8 à 10. L'apôtre, dans un certain sens, rabaisse ici la loi, tout en reconnaissant son utilité quand elle est à sa place, comme une arme de justice pour condamner. Et il la met en contraste avec l'évangile qui a affaire avec la gloire de Dieu que cet évangile annonce, tandis que la loi a affaire avec la méchanceté que cette loi condamne. Ayant parlé de l'évangile, de la gloire qui lui avait été confiée, l'apôtre attire l'attention de Timothée vers la grâce souveraine, grâce qui l'avait introduit lui-même dans la connaissance de cette gloire, témoignage de l'accomplissement de l'œuvre de la grâce. « Je rends grâce, dit-il, au Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. » Verset 13. C'était bien la grâce qui avait fait cela. L'apôtre parle de deux choses au sujet de sa conversion. Premièrement, comment Dieu avait pu avoir pitié de lui dans un tel état. Il était dans l'ignorance, verset 13. Il montre en second lieu le but de Dieu, verset 16. Ce but était que l'apôtre fût un modèle de grâce pour tous. Le fait que Paul était dans l'ignorance et dans l'incrédulité n'excusait pas son péché, bien que ce fût un état qui rendait la miséricorde possible. Car si l'apôtre eût été ennemi, le sachant et le voulant, quand la grâce de l'évangile lui était déjà connue, sa délivrance n'eût pas été possible. Il met donc la pure et parfaite grâce en avant, comme ayant abandonné pour lui. Il était le premier des pécheurs, et c'était bien le cas. Le souverain sacrificateur avait jusqu'au bout résisté au Saint-Esprit. Paul avait pris part à cette résistance. Mais il ne s'était pas contenté de cela. Il voulait être partout l'ennemi actif de la foi et détruire le nom de Jésus. Il avait beaucoup fait à Jérusalem, mais il voulait assouvir sa haine, même dans des villes étrangères. Nous savons son histoire, telle qu'elle nous est racontée dans les Actes. Expression vivante de l'état de résistance des Juifs à la grâce. Paul était, entre les hommes aussi, l'expression de leur inimitié la plus active contre celui que Dieu voulait glorifier. La grâce était plus grande que le péché, la patience de Dieu plus parfaite que la persévérance de l'homme dans son hostilité. Celle-ci avait pour limite l'impuissance de l'homme. Celle-là n'avait point de limite dans la nature de Dieu, si ce n'est sa propre et souveraine volonté. Tout coupable que fût l'homme, son péché ne parvient pas jusqu'à Dieu de manière à troubler l'action indépendante de sa nature ou à changer ses desseins. Dieu voulait donner en Paul un exemple de la souveraineté de cette grâce, de son bonté parfaite pour les Juifs qui, à l'avenir, se trouveront comme nation dans l'état où avait été Saul. Puis, pour tous les hommes, ennemis de Dieu et par nature enfants de colère. Le premier, le plus actif, le plus acharné des ennemis est devenu le meilleur, le plus puissant des témoins de la grâce de Dieu qui est au-dessus du péché, de l'œuvre de Christ parfaite pour abolir le péché. Cet adieu tel dans sa nature, et qui dispose du déploiement de tous les siècles selon ses conseils, au seul Dieu invisible, incorruptible, que l'apôtre attribue toute louange et toute gloire. Verset 17. Telle était la base du ministère de Paul en contraste avec la loi. Ce ministère était fondé sur la révélation de la gloire, révélation qui s'appliquait à l'expérience que l'apôtre lui-même en avait fait individuellement. Pierre, coupable d'avoir renié un sauveur vivant, pouvait parler aux Juifs de la grâce qui s'adressait à leur propre position qui avait été la sienne. Paul, autrefois ennemi d'un sauveur glorifié et qui avait résisté au Saint-Esprit, pouvait annoncer la grâce qui s'élève même au-dessus de cet état de péché et tout ce qui vient de la nature de l'homme. Cette grâce ouvrait la porte aux gentils selon les conseils de Dieu, même quand les Juifs avaient tout rejeté. Elle leur substituait l'assemblée céleste et suffisait pour admettre plus tard cette nation coupable à de meilleurs privilèges que ceux qu'elle avait perdus. Tel était l'appel de l'apôtre, tel son ministère. Ayant montré l'opposition entre ce qui lui était confié et la loi, tout en confirmant l'utilité de celle-ci, non comme règle pour les justes ou comme guide pour le peuple de Dieu, mais comme jugeant le mal, l'apôtre reprend ses instructions à Timothée quant aux détails de sa mission au milieu des Éphésiens. À la fin du chapitre 1, il lui confie la charge, lui envoie son mandat. Le mot grec que je traduis ici par mandat se rapporte au verset 3 et au verset 5. Paul avait laissé Timothée à Éphèse pour ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines que la vérité de l'Évangile. Or, la fin de l'ordonnance de cette commission évangélique était l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Car l'Évangile, tout en révélant les conseils merveilleux de Dieu, maintient les grands principes éternels de sa nature. Ce dernier trait est ce qui distingue la vérité d'avec les prétentions orgueilleuses des imaginations hérétiques. Dieu veut que l'homme soit en relation avec lui, réellement, de cœur et de vérité, selon ses principes. Or, cette commission, l'apôtre la confiait maintenant à Timothée, son véritable enfant dans la foi. Timothée devait la maintenir avec une autorité basée sur le témoignage divin, mais qu'il tenait formellement de l'apôtre qu'il avait désigné pour ce service. Paul s'était adjoint Timothée dans ce ministère, non seulement de son propre mouvement, mais d'après des prophéties qu'il avait indiquées dans ce but. Ces prophéties étaient aussi un moyen de fortifier Timothée pour le combat qui l'attendait dans cette fonction. Les conditions de la victoire étaient pour lui selon la nature de la commission qu'il avait reçue. Il devait garder la foi et une bonne conscience. Or, la foi signifie ici la doctrine du christianisme, toutefois non pas seulement comme doctrine, mais comme la vérité que l'âme tenait de Dieu, comme vérité venant de lui. Il s'agissait de maintenir la vérité, la doctrine chrétienne, mais de la garder comme révélée par Dieu lui-même, de sorte qu'elle fût pour l'âme la vérité. La lumière doit posséder, avec des limites bien dessinées, l'autorité divine. C'était la foi ce que Dieu avait révélé, reçu avec certitude comme telle, comme la vérité. Or, pour être en communion avec Dieu, il faut que la conscience soit bonne, soit pure. Si nous ne sommes pas dans cette communion, nous ne pouvons avoir une force qui nous maintienne dans la foi, qui nous rende capables de persévérer dans la profession de la vérité comme Dieu nous la donne. Satan a alors prise sur nous. Si l'esprit d'un homme qui se trouve dans cet état est actif, il tombe dans l'hérésie. La perte d'une bonne conscience ouvre la porte à Satan, parce qu'elle nous prive de la communion de Dieu. Et l'esprit actif, sous l'influence de Satan, invente des pensées au lieu de confesser la vérité de Dieu. L'apôtre traite de blasphème les pensées qui sont le fruit de cet état. La volonté de l'homme est en activité. Or, plus le sujet est grand, plus la volonté sans frein est possédée par l'ennemi, s'égare et s'élève contre Dieu et contre l'assujettissement de toute pensée à l'obéissance de Christ et à l'autorité de la révélation de Dieu. L'apôtre avait livré deux personnes de cette catégorie à Satan. Il s'agit de souffrances extérieures, verset 20. Ces personnes, quoique déjà trompées par Satan, n'était pas en sa puissance comme s'il avait le pouvoir de tourmenter et de faire souffrir. Car dans l'assemblée, quand elle est dans son état normal, il n'a aucune puissance de ce genre. L'assemblée en est garantie comme demeure du Saint-Esprit, protégée par Dieu et par la puissance de Christ. Satan peut tenter individuellement, mais il n'a aucun droit sur les membres de l'assemblée comme tels. Ils sont dedans, et quelque faible qu'ils soient, Satan ne peut entrer là. Ils peuvent lui être livrés pour leur bien, et cela peut arriver dans tous les temps, témoin le cas de Job. Mais l'assemblée devait avoir la connaissance des voies de Dieu à l'égard des siens, et être la gardienne et l'instrument de leur accomplissement. Le Saint-Esprit habite en elle. Dieu demeure en elle comme dans sa maison par l'Esprit. Au dehors d'elle est le monde dont Satan est le prince. L'apôtre, par le pouvoir qui lui était communiqué, car c'est un acte de puissance positive, a livré ces deux hommes à la puissance de l'ennemi en les privant de l'abri dont ils jouissaient. Ils avaient écouté l'ennemi, avaient été ses instruments. Or cela ne devait pas se faire dans l'assemblée au milieu de membres de Christ. Il leur fallait éprouver ce qu'était celui à qui ils savaient prête l'oreille. Dieu se servait ainsi de Satan lui-même, comme d'une verge, pour le bien de ses enfants rebelles. Satan allait les instruire par les peines qu'il leur ferait souffrir, quel que fût le genre de celles-ci, angoisse d'âme ou de corps, et ces dernières sont le résultat immédiat, afin que leur volonté fût brisée et amenée à se soumettre à Dieu. Solennelle discipline, merveilleux pouvoir entre les mains d'un homme. Mais ce pouvoir fournissait la preuve que l'amour de Dieu peut disposer de tout pour délivrer une âme et pour l'amener à lui.